RTL Bonsoir,
Julien Cellier,
Isabelle Choquet et Cyprien Signy.
Allez RTL Bonsoir, notre invité événement maintenant, c'est la secrétaire d'État à la ville et à la citoyenneté. Bonsoir Sabrina Agresti-Roubache.
Bonsoir, bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous étiez aux côtés du Premier ministre Gabriel Attal ce matin à Viry-Châtillon, cette ville de l'Essonne ébranlée par la mort de Chemseddine, 15 ans, cet ado battu à mort près de son collège, le chef du gouvernement. On l'évoquait dans le journal Pronin, un sursaut d'autorité, responsabilité des parents, école, justice. Il a lancé toute une série de pistes, de mesures pour renouer avec nos ados. On va les interroger, ces pistes, mais juste pour commencer, Sabrina Agresti-Roubache, le point qui a sans doute attiré, il y a quelques minutes, l'oreille de tous les parents. Scolarisation non-stop au collège de 8h à 18h, ça veut dire quoi concrètement? Que nos enfants vont avoir l'obligation de passer 10 heures dans l'établissement, et ceci partout en France?
Alors, non. Ce que le Premier ministre a dit, c'est une mesure que le Président de la République avait annoncée l'été dernier à Marseille, lors de sa visite officielle à Marseille fin juin. C'était de dire ouvrir les collèges dans les quartiers prioritaires, je le précise. C'est pas de partout en France, c'est dans les quartiers prioritaires.
Dans les collèges REP.
Absolument, et REP+. Donc pour pouvoir avoir un accueil des enfants, donc des adolescents, puisqu'on parle de collège, de 8h à 18h, pour que chaque enfant des quartiers prioritaires ne soit plus jamais livré à lui-même. Dans des horaires de travail, vous comprenez bien que 8h, 18h, ça correspond plutôt à des horaires en journée de travail, et pour que chaque enfant ait un adulte référent en face de lui. Donc ne plus laisser les enfants seuls et les parents...
Ils n'auront plus le droit de sortir à 17h, par exemple ?
Écoutez, ils n'auront plus le droit de sortir à 17h, sauf si les parents ont les moyens de les récupérer et donc de s'en occuper. Mmh. Et si le travail n'est pas fini, ils pourront les laisser jusqu'à 18h et les déposer plutôt donc à 8h. Et si jamais un professeur manque, parce que je pense que c'est la question aussi qui viendrait peut-être juste derrière, c'est de dire aux parents, vous avez cette solution de laisser vos enfants dans l'enceinte de l'école, pas forcément à être en cours, mais peut-être aller au CDI, peut-être avoir une activité à part. Et par exemple, ce qui fonctionne bien, et pourquoi cette mesure me tient à cœur, j'ai dans mon portefeuille aussi les cités éducatives. Vous savez, c'est cette grande alliance entre la communauté éducative, les élus locaux et les associations, et les parents aussi, hein, les parents d'élèves, qui peuvent se réunir autour d'un projet pédagogique. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une... cité éducative. Et j'en profite, si vous le permettez, j'avais annoncé assez tôt leur généralisation et j'ai appliqué ce que le président de la République lui-même avait annoncé encore une fois l'année dernière, la généralisation de ces cités éducatives qui sont en réalité un outil qui fonctionne très très bien. Et cette année, donc, j'ai décidé de lancer un appel à candidature sans mettre de deadline, si vous me permettez l'expression, donc de clôture. Je veux que les élus locaux, la communauté éducative et les associations et les parents d'élèves puissent avoir le temps de créer et d'imaginer leurs projets pédagogiques pour leurs enfants. Et par exemple, sur le 8h-18h, dans les cités éducatives, absolument, absolument. Ouais. Avec des moyens, alors des moyens, si vous le permettez, sur des crédits politiques de la ville, pas mobilisés sur le droit commun, mais bien sur les politiques de la ville, dédiées uniquement aux enfants des quartiers prioritaires.
Il y a aussi cette volonté de laisser une trace en cas de dérapage de l'élève. Les élèves perturbateurs pourraient par exemple être sanctionnés sur leur brevet, leur bac, leur diplôme. Vous pensez que ça peut les dissuader, les perturbateurs? Alors, qu'a priori, déjà, ce ne sont pas ceux les plus préoccupés par leurs résultats.
Écoutez, oui, mais à la fois, il faut bien démarrer quelque part. Vous comprenez bien que si vous dites à un jeune « tu peux faire à peu près ce que tu veux, il n'y aura pas de sanctions », il faut bien qu'on démarre quelque part. On sait très bien, ils sont à l'école. Donc, si on parle d'école, on parle d'examen. On parle du brevet, on parle du bac. On est d'accord. La chose est... Est-ce que cette trace restera indélébile? Non, puisque le Premier ministre a annoncé ce matin qu'il était possible, si jamais il faisait œuvre...
De se racheter.
Absolument, de se racheter. Vous savez, se racheter une conduite, moi je ne crois pas aux peines à perpétuité. Je ne pense pas qu'on puisse payer une erreur de jeunesse toute sa vie. Donc justement, comment est-ce qu'on fait prendre conscience? Et là, c'est la ministre, mais aussi c'est la maman d'une adolescente qui vous parle. Tout le monde a le droit de faire une erreur. Sauf que ne pas comprendre son erreur et laisser une erreur sans être une erreur, un acte, là on parle de délinquance. De quoi parle-t-on? D'ultra-violence, de délinquance.
Perturbateur, ça veut dire ça? Ça veut dire violence?
Perturbateur, ça veut dire aussi empêcher les autres de travailler.
Ça veut dire celui qui parle en classe.
Non, c'est drôle ce que vous dites, puisque un des jeunes nous disait, par exemple, une heure de colle pour du bavardage, c'est trop. J'ai dit, j'étais plutôt d'accord. Mais non, vous voyez. Donc non, je pense que là, il faut vraiment de la granularité. C'est à la communauté éducative qui sait parfaitement faire ça. C'est pas moi qui vais le faire, c'est pas le Premier ministre, c'est pas le Président de la République. Et c'est pas la ministre de l'Éducation nationale non plus.
Donc ce sont dans les établissements que les chefs d'établissement apprécient. appréciation, effectivement, absolument, qui perturbe ou qui ne perturbe pas.
Moi, je crois beaucoup à la décision qui part d'en bas. Je l'ai dit suffisamment et j'y crois.
Sabrina Gresti-Roubache, on sait le rôle des réseaux sociaux dans le harcèlement, dans la mise en scène des violences, et on l'a encore vu malheureusement ces derniers jours. Ouais. Il y a une volonté de contrôler l'âge, 15 ans minimum, avec une nouvelle loi, mais tous les parents qui nous écoutent s'interrogent, eux qui ont parfois du mal même à gérer les réseaux sociaux de leurs enfants à la maison. Comment contrôler ? Est-ce que c'est vraiment réaliste ?
Alors, écoutez, je l'avais dit, les réseaux sociaux sont une arme de destruction massive de notre jeunesse. Donc c'est complètement assumé ce que je vous dis. Je le pense, et encore une fois, on peut pas nier que les dégâts sur nos enfants des réseaux sociaux ne comptent pas. C'est pas vrai, puisque même les adultes n'arrivent pas à gérer.
D'accord. Contrôle, comment on fait ?
À partir de 15 ans, écoutez, la majorité numérique à 15 ans, c'est le projet de loi du député et président de son groupe Horizon, Laurent Marcangeli, qui dit une majorité numérique à 15 ans. C'est déjà un départ. Parce que 15 ans, c'est pas 11 ans. Vous comprenez? Et que, bien sûr que les parents ont un rôle fondamental à jouer dans le contrôle des réseaux sociaux. Vous savez, les enfants, ils sont plus malins que les parents. Mais les adultes restent les parents. Et encore une fois, c'est parce que aussi je suis confrontée à ça, une adolescente, donc je vois bien comment ça marche. Ils sont très malins, très dégourdis sur les réseaux sociaux, extrêmement mieux informés que nous de comment ça marche. Ce que je crois, c'est que plus on mettra de contrôle, mieux ça marchera. Regardez ce qu'on a fait sur la cigarette, sur l'alcool, sur les jeux. Bien sûr que vous n'empêcherez pas un gamin de 15 ans d'aller s'acheter un paquet de cigarettes, mais c'est quand même interdit. Et en attendant, le buraliste qui va vendre un paquet de cigarettes à un enfant de 15 ans, eh ben il peut être sanctionné. Et il est hors la loi, exactement.
Là, il y a 8 semaines de concertation qui s'ouvrent sans tabou, absolument, avec notamment un débat sur l'excuse de minorité face à la justice. Est-ce que vous pensez qu'on peut l'atténuer ? Le Conseil constitutionnel, par exemple, il risque de dire non, là.
Non, écoutez, on va laisser ce chantier s'ouvrir, le Premier ministre l'a annoncé. Donc, évidemment que c'est une remontée du terrain, pareil. Est-ce que maintenant, parce que les enfants jeunes, les mineurs, là on parle de mineurs, on va dire de 13 ans, entre 13 et 15. La réalité, c'est que ils commettent des actes d'une telle gravité, donc la question se pose. Mais moi, ce que je nuance quand même, et je le dis, il faut ouvrir le débat, mais attention, sur le plan physiologique, intellectuel, psychologique, un enfant de 13 ans reste un enfant de 13 ans. Donc, ce que je crois quand même, c'est que il faut ouvrir le débat. Attendons de voir ce que vont donner ces concertations. Moi, je pense quand même que quand il s'agit de notre jeunesse, quand il s'agit de la prévention de la délinquance, quand il s'agit de les protéger d'eux-mêmes et de ce qu'ils peuvent faire aux autres, il n'y a aucun tabou à avoir. Et je pense que c'est parce qu'on a trop de tabous que justement on a mis des mouchoirs sur de vraies problématiques tout en appelant à la responsabilisation des parents. Vous savez, je l'ai toujours dit, le premier qui a de l'autorité sur un enfant, on va dire dans une famille qui n'a pas de problèmes sociaux ni médicaux, ça reste le parent. Le premier référent d'autorité doit être le parent.
Madame la ministre, vous nous parlez ce soir depuis votre ville, Marseille. On apprend qu'une directrice d'école a été agressée par une mère et sa fille cette semaine. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux profs qui nous écoutent ? Parce que certains syndicats dénoncent déjà un recyclage de mesures par le Premier ministre.
Écoutez, ce que je dis déjà, je lui souhaite de très vite se rétablir et lui dire à quel point je suis désolée, mais à quoi a-t-on assisté ? À une enfant, il me semble que c'était l'enfant qui avait été privé de sortie ou un enfant
et qui scolaire,
d'une sortie scolaire et qui est venu donc s'organiser pour invectiver et agresser la directrice de l'école. Je dis à la communauté éducative qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes là, que les sanctions les plus sévères doivent être prises, et c'est tellement évident de dire ça, mais surtout de pas dire il n'y a pas de mesures recyclées. Vous savez, à chaque époque, ces problèmes. Il y a 40 ans de ça, on avait d'autres problèmes, vous vous en rappelez bien, on connaît tous, j'ai 47 ans, on a tous connu à notre époque la prévention contre le sida, on a connu de vraies campagnes de prévention contre la drogue. Et c'est pour ça que je dis, évidemment que l'école reste le lieu où tout se passe, mais le problème c'est que il se passe des choses à l'école, ça continue à l'extérieur, et sur le harcèlement scolaire, puisque je fais une boucle si vous le permettez, les enfants ne sont plus jamais tranquille. Ce que je voudrais, c'est qu'on ramène de la tranquillité, de la sérénité chez nos enfants. On leur doit bien ça. Et pour revenir sur la directrice d'école, ça s'est passé chez moi à Marseille, c'est de dire, regardez le comportement des parents. Et moi, je l'ai toujours dit. Et c'est, vous savez, un enfant qui fait une bêtise, qui commet une erreur, c'est pas tellement ça. En vrai, tous les enfants se construisent dans l'opposition aux parents, dans des choses qu'ils refusent, le refus de l'autorité. Mais c'est à nous les adultes, et c'est à nous, les parents, à rappeler qui est le parent, qui est l'adulte et qui est l'enfant, et que on ne peut pas laisser tous les actes impunis. Et regardez comment se comporte ce parent d'élève. Ça veut tout dire de tout ce dont nous sommes en train de parler en ce moment.
Merci beaucoup Sabrina Gressy-Roubache, secrétaire d'État à la ville, à la citoyenneté. Merci d'avoir été notre invité événement depuis Marseille ce soir, après ce discours de Gabriel Attal, le Premier ministre, qui appelle à un sursaut d'autorité après de multiples violences entre adolescents. On ne compte plus les cas ces derniers jours dans l'actualité. RTL, bonsoir. Qui se poursuit avec votre RTL Inside. Alors là, tout autre chose.
RTL a testé le pass traduction de la SNCF pour que les touristes du monde entier et les agents puissent se comprendre pendant les Jeux Olympiques.
Et puis la visioconférence est avec Clément Charton cette semaine. On parle de qui et de quoi, Clément, ce soir ?
On va parler des JO et de l'Espagne.
Allez, à tout de suite.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Sini. RTL.